si monsieur Yves de la Susse s'est déplacé de loin, puisqu'il vient de Toulon. Donc, il vient de Toulon dans notre belle région pour retrouver la pluie. Merci de vous être déplacé de si loin pour venir nous parler des apparitions de notre âme de Fatima et du message de notre âme de Fatima et de la dévotion au cœur immaculé de Marie. Monsieur de la Susse est le président de Cap Fatima 2017. Donc vous avez les affiches, les prospectus ici, qui est un mouvement pour promouvoir la dévotion envers le cœur immaculé de Marie et le message de notre âme de Fatima et des petits pastoureaux qui sont, je vous le rappelle, les saints patrons de notre école cette année. Monsieur de la Susse est écrivain, notamment, il écrit un ouvrage que vous avez ici et qui se fera le plaisir de dédicacer, l'ouvrage là sur les mystères et vérités cachées du trône secret de Fatima, et qui se fera un plaisir de vous dédicacer à l'issue de la conférence. Était notamment écrivain et puis père d'une famille nombreuse, avec vraiment, il avait 3 enfants, dont Dieu, 3 enfants dans les ordres. Donc, on rend grâce à Dieu pour ça. Merci de vous être déplacé de si loin, surtout que je sais que votre père est malade en ce moment, était à l'hôpital et nous prions bien pour lui. En tout cas, Cécile m'avait tenu informé. Donc, merci de ce déplacement, merci d'être parmi nous et un grand merci pour le message que vous allez porter ce soir pour nous aider à grandir dans notre dévotion envers notre âme de Fatima et le cœur immaculé de Marie. D'avance, merci.
Très bien, monsieur Jonas, merci beaucoup. Et puis, merci à vous tous d'être venus. Je suis un peu impressionné puisque je pense que j'ai en face de moi de nombreux spécialistes de Fatima, vu le nom de l'école. Et donc, vous devez leur faire des tas de cours sur Fatima. Donc, j'espère que je vais quand même vous apprendre quelque chose. Je vous prie de m'excuser pour un petit problème matériel. Là, on pensait avoir un ordinateur pour vous projeter les textes. Je tiens beaucoup à présenter pas mal de textes de Sœur Lucie ou de la Sainte Vierge, parce que le message est tellement galvaudé qu'il faut en permanence revenir au texte même pour vraiment voir ce qu'a dit le ciel et ce que veut le ciel. Hein. C'est important. Et bien, écoutez, c'est pas très grave. Si on n'y arrive pas, je les lirai. Je tâcherai de les lire lentement. Ça prendra peut-être un petit peu plus de temps. J'aime bien le projeter parce que souvent, ceux qui sont visuels, notamment, c'est plus agréable pour eux. Bon, écoutez, si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. C'est pas très, très grave. Voilà. Donc, pourquoi s'intéresser à Fatima en 2016 et en 2017? Alors, il y a de multiples raisons, bien sûr, notamment, bon, les hommes aiment bien fêter les anniversaires, un centenaire, ça ne se fête pas tous les jours, donc effectivement, c'est une tout à fait autre raison. Il y a une raison qui est beaucoup plus pratique et concrète, et qui nous intéresse directement, c'est l'état de notre pays. Et je me permettrai de commencer un petit peu par cette raison, parce qu'elle nous touche directement, et je pense qu'une raison qui nous touche va forcément nous pousser plus à prendre les moyens qu'offre le ciel pour redresser la situation. Donc je ne vais pas vous faire un état de la situation en France aujourd'hui, mais si on regarde au plan temporel, que ce soit sur le plan économique où la faillite est quasiment assurée, ou au moins à brève échéance, au plan démographique où on se reconnaît de moins en moins dans nos régions, hein, elles sont de plus en plus envahies, c'est pas à vous que je l'apprendrai, vu que vous êtes tout près de Calais, où l'insécurité est grandissante et on voit un État complètement défaillant devant ses activités régaliennes, on est vraiment un peu effondré. Mais si on regarde au plan religieux, c'est pareil. La pratique religieuse en France, je lisais encore récemment, 4% vont à la messe une fois par mois et on dit que c'est des catholiques. Effectivement, si vous comptez ceux qui vont à la messe tous les dimanches, ça tombe à 1%. Mais ce n'est pas que la pratique religieuse. Si vous regardez la foi, ce que croient les gens, c'est une catastrophe. Je vous donnerai un exemple qui est assez amusant. Si vous prenez le credo, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, jusqu'à là ça va, créateur du ciel et de la terre, ça y est, il n'y a plus personne. Tout le monde croit au Big Bang et personne ne veut croire que c'est Dieu qui a créé. Quand vous dites que vous êtes créationniste, vous êtes pris pour un extraterrestre, pour quelqu'un qui est complètement demeuré. Voilà. Et donc là, ça vous fait encore descendre le pourcentage. Je ne préfère pas donner de chiffres. Mais si vous regardez la loi morale, et si vous regardez même dans nos milieux comment elle est respectée, notre curé l'autre jour nous demandait en sermon de prier pour les jeunes de la paroisse, et pourtant qui sont, etc., pour des questions morales, en disant c'est une catastrophe avec Internet, vous ne vous rendez pas compte, Mais ces gens-là vont à la messe, ces gens-là se conduisent comme tout le monde, et en fait, derrière, quand on est au confessionnal, c'est une véritable débandade. Et donc, on peut dire que la France, eh bien, mon Dieu, elle est bien près de mourir, enfin, au moins la France chrétienne, hein, la France telle qu'on l'a connue du temps de Saint-Louis, ou même du temps de, plus récemment, des grands rois de France. Et il faudrait un véritable miracle pour redresser cette situation. On en discutait tout à l'heure avec l'abbé de Dainville, mais la chanoine de Dainville. C'est vrai qu'on ne voit pas très bien comment s'en sortir. Alors, quand on parle de miracle, tout de suite, ah, on se dit, mais ça, comment faire un miracle? On est un peu plus compétent, on sait faire. Parce que l'Évangile nous donne des exemples de miracles, et je crois qu'on n'a pas assez réfléchi à la façon dont s'opère un miracle. Donc, je vais vous montrer... je vais prendre le premier miracle, c'est le miracle de la résurrection de Lazare. Ça tombe bien, c'est une résurrection. Et ce que nous demandons, c'est la résurrection de notre pays. On peut constater qu'un miracle se déroule en... Alors, certains disent 4, moi je préfère 5 phases. Une première phase est une phase de demande, où on dit, dans la résurrection de Lazare, celui que tu aimes est malade. Voilà, on dit, on informe le Christ d'une, et on dit, ben, on est triste de la situation. Ensuite, le Christ arrive devant Marthe et lui dit, je suis la résurrection, le crois-tu? Donc la première chose que demande après ça le Christ quand il agit, c'est un acte de foi. C'est une chose qu'on oublie trop souvent, mais il faut commencer par un acte de foi. Troisième étape, c'est une étape assez curieuse. Il demande une chose qui n'a absolument rien à voir avec une résurrection, il dit « ôtez la pierre ». Je ne sais pas si pour vous ça suscite une réaction normale, mais ôter une pierre d'un tombeau pour ressusciter un mort, ça ne sert pas à grand-chose. Pourtant, il faut le faire. C'est la troisième étape. Quatrième étape, c'est le miracle proprement dit, où notre Seigneur dit « Lazare, sors dehors ». Et enfin, une cinquième étape, où après avoir fait le miracle, il rend, si je puis dire, la main aux hommes en disant « déliez-le et laissez-le aller ». Et quand vous regardez les miracles de Jésus, c'est à peu près toujours comme ça que ça se passe, en 4 ou 5 étapes. Alors, selon les miracles, ce n'est pas toujours, on ne les voit pas, ces étapes, toujours aussi clairement, mais elles y sont. Je vais prendre un deuxième exemple, par exemple les noces de Cana. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris celui-là? Parce qu'il se trouve que la résurrection de Lazare est à peu près le dernier miracle accompli par notre Seigneur sur cette terre, et le miracle de Cana est le premier. Donc on peut dire que c'est un peu les règles générales du miracle. Alors, dans le miracle de Cana, eh bien, on voit la même chose. Première étape, une demande, c'est la Sainte Vierge qui l'a fait, puisque personne ne connaissait encore le Christ aujourd'hui, à l'époque. Et elle dit, ils n'ont plus de vin. Voilà, un peu comme on disait, celui que tu aimes est malade, ils n'ont plus de vin. Là, il y a un phénomène assez extraordinaire. Le Christ commence par lui dire que ben, ce n'est pas son heure. Et là, c'est l'acte de foi est directement fait par la Sainte Vierge. Elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. C'est, je crois, un des plus beaux actes de foi, peut-être avec celui du centurion, que l'on trouve dans l'Évangile. Le Christ lui dit, non, mon heure n'est pas encore venue. Qu'est-ce qui s'est passé entre le Christ et la Sainte Vierge? Enfin, elle fait cet acte de foi en disant, je sais qu'il est capable de le faire. Elle dit au serviteur, faites tout ce qu'il dira. Et là, même chose, le Christ dit une chose qui est totalement incompréhensible. Il dit, remplissez d'eau ces jarres. Alors ces jarres, il faut savoir que c'était des jarres qui servaient à recueillir l'eau avec lesquelles on lavait les pieds et les mains des invités, puisque les gens venaient en Palestine, marchaient souvent à pied, donc dans un pays souvent chaud, et une des marques souvent pour accueillir les gens était de leur laver les mains et les pieds. Et ces jarres servaient à recueillir cette eau qui était donc sale, même assez pourrie, et non seulement il prend des jarres avec de l'eau sale, mais il leur demande de remplir d'eau. Donc, je ne sais pas si vous pouvez vous mettre dans la tête de ces braves serviteurs qui ont dit, celui-là, comme disent nos jeunes, il manque une case, quoi, c'est pas possible, on veut du vin, et il fait remplir de l'eau dans des jarres où c'est pourri. Ils le font quand même. Là, l'action divine, nous ne la voyons pas, ce qui est normal, puisque l'heure du Christ n'étant pas encore venue, il l'a fait pour obéir à sa mère, mais sans se montrer, puisqu'il ne sait pas encore l'heure où il se montre. Mais elle y est. Et ensuite, cinquième étape, puisez et portez-en au maître du repas. On revoit le Christ qui redonne encore la main aux hommes. Donc, on voit ces cinq étapes. Alors, bien sûr, ce qu'il faut, c'est que nous regardions les étapes dans lesquelles nous situons, dans les trois premières. Et c'est ce que les bénédictins, d'ailleurs, dans leur devise, ont très bien résumé. Alors, eux, ils ont résumé les deux premières en une seule, qui est le « ora hein, » et « et labora ». Donc, on voit l'acte de foi, la prière, et ensuite l'action humaine, proprement dite. Cette action humaine qui a pour vocation essentielle de nous marquer, enfin de faire en sorte que notre acte de foi soit vraiment un investissement de notre part. C'est une façon matérielle de concrétiser un acte de foi, que ce ne soit pas uniquement une parole en l'air comme ça, dite comme ça. Et donc, le « ora et labora », j'aime bien raconter une petite histoire. Lorsque j'étais chef de chapitre pour préparer le chapitre de pèlerinage de Chartres, c'était l'année où on allait au Barou les préparer. C'était pas une année où j'y étais, mais on me l'a raconté. On avait demandé à un des moines de venir faire une petite conférence spirituelle en fin de week-end. Et on leur avait demandé, à ce moine, je crois que c'était Don Gérard, d'après ce qui nous a appris ma mémoire, de commenter la devise des bénédictins. Alors, le moine réfléchit un peu, et puis il dit, un peu malicieusement, il dit, écoutez, ça me gêne un peu, parce que j'aurais pas grand-chose à dire. D'une part, cette devise est très courte, elle ne fait que trois mots. Mais en plus, dans ces trois mots, il n'y en a qu'un seul qui est important, c'est le « être ». Quand vous avez compris qu'il faut faire les deux, quand vous avez compris que le mot important dans « ora et labora », c'est le « être », vous avez absolument tout compris. Voilà. Et aujourd'hui, on voit en politique beaucoup de gens qui s'excitent sur le labora, mais on n'en voit aucun qui s'excite sur le parti ora. Alors, si sur le labora, le ciel nous laisse à peu près libre, hein, c'est rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, eh bien, en ce qui concerne le domaine de la prière, reconnaissez que Dieu a quand même le droit de dire « je préfère que vous fassiez telle ou telle chose ». Donc, il convient de se préoccuper, de savoir est-ce que Dieu a demandé de nos jours quelque chose pour redresser cette situation que nous voudrions redresser. Nous laissons aux partis politiques, aux hommes à faire ce qu'ils veulent. Vous faites beaucoup de choses, il y en a qui manifestent, il y en a qui font plein de choses. C'est très bien, mais est-ce que nous pensons à associer la prière, et quelle prière plus particulièrement? Eh bien, effectivement, il faut reconnaître qu'à Fatima, Dieu a vraiment marqué, dit, fait savoir ce qu'il voulait. Je vous prendrai que quelques textes, puisque nous parlons de la paix en France. Eh bien, la première chose, quand on voit les apparitions de Fatima, c'est dans les apparitions de l'ange en 1916, dans les deux premières apparitions, l'ange parle de la paix. Et donc, c'est pour nous préparer au message sur la paix qui sera donné ensuite. Voilà, voici ce qu'il dit. Il commence donc au printemps 1916 en disant « Je suis l'ange de la paix ». Et à l'été 1916, il dit « De tout ce que vous pourrez, offrez à Dieu un sacrifice en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs ». Donc, il nous demande un sacrifice pour réparer les offenses. Et il ajoute, très important, « De cette manière, vous attirerez la paix sur votre patrie ». Donc voilà le ciel qui nous dit comment faire pour avoir la paix sur notre patrie. Et la Sainte Vierge a continué sur ce registre. Le 13 mai de l'année suivante, elle a commencé par dire la première apparition où elle a été, elle a dit « Récitez le chapelet tous les jours pour obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre ». Et c'est bien ce que nous voulons. Et le 13 juillet, elle l'a dit plusieurs fois. Elle a dit trois fois ce qu'il voulait. « Je veux que vous veniez ici le 13 du mois qui vient et continuez à réciter le chapelet tous les jours en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire pour obtenir la paix du monde et la fin de la guerre parce qu'elle seule peut les obtenir. » Voilà. Phrase excessivement importante. « Dites le chapelet tous les jours pour obtenir la paix du monde et la fin de la guerre parce qu'elle seule, la Sainte Vierge, peut les obtenir. » Hein, il serait temps de penser qu'effectivement, le ciel nous a dit que seule Notre-Dame pouvait nous accorder la paix. Et elle continue toujours dans le 13 juillet, c'est le jour du 13 juillet, « Si l'on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes seront sauvées et l'on aura la paix. Et si l'on écoute mes demandes, la Russie se convertira et l'on aura la paix. » Donc, voilà, la Sainte Vierge qui conclut en disant « Si l'on écoute mes demandes, on aura la paix. » Donc ça vaut quand même, il est quand même intéressant de se demander qu'est-ce qu'a demandé la Sainte Vierge pour qu'on puisse avoir la paix. Et juste avant sa mort, Jacinthe, quand elle était à l'hôpital à Lisbonne, a très bien expliqué cela. Jacinthe était sans doute une de celles qui avait le mieux compris le message. Elle était plus jeune, elle était beaucoup plus sensible. Et tous les écrits de tout ce que dit Jacinthe, c'est vraiment extraordinaire parce qu'on voit qu'elle a excessivement bien approfondi, très bien compris le message. Voilà, c'est ce qu'elle dit juste avant sa mort. « Dieu nous accorde ses grâces par le moyen du cœur immaculé de Marie, que c'est à elle qu'il faut les demander, que le cœur de Jésus veut qu'on vénère avec lui le cœur immaculé de Marie, que l'on demande la paix au cœur immaculé de Marie, car c'est à elle que Dieu l'a confié. » Donc, voilà Jacinthe qui confirme que c'est bien à la Sainte Vierge qu'il faut demander la paix. Et quelques années plus tard, Sœur Lucie, qui a bien sûr toute sa vie répandu ce message, écrit au Père Aparicio, qui était un de ses confesseurs, elle dit ceci: « De la pratique de cette dévotion, unie à la consécration au cœur immaculé de Marie, » là elle parle des premiers samedis du mois, « unie à la consécration au cœur immaculé de Marie, dépendent pour le monde la paix ou la guerre. » Voilà, donc nous voulons la paix, eh bien, soit, faisons ce que demande la Sainte Vierge à Fatima. Donc, vous me pardonnerez cette introduction un peu longue, mais je pense que c'était important de nos jours de bien voir que Fatima est une réponse, pour ne pas dire la réponse, à la situation d'aujourd'hui, la réponse pour la partie aura, hein, c'est-à-dire que il ne suffira pas de faire ça, vous avez aussi à faire dans le domaine temporel tout votre devoir d'État. Hein. On ne parle ce soir que de la première partie. On pourrait parler de la deuxième partie une autre fois, mais ça ferait l'objet d'une autre conférence, sinon on y passerait la nuit. Alors, que veut le ciel à Fatima? C'est le 13 juin donc 1917, dans la première apparition, hein, les apparitions de l'ange n'étaient que pour préparer en fait le message que la Sainte Vierge allait donner en 1917, le 13 juin, la Sainte Vierge dit « Jésus, c'est-à-dire la deuxième personne de la Sainte Trinité, veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. » Et elle ajoute une phrase qu'il faut vraiment méditer, parce qu'elle nous touche directement, elle est vraiment très importante: « À qui embrassera cette dévotion, je promets le salut. » Je ne sais pas si on mesure ce que ça représente, mais celui qui pratique cette dévotion, la Sainte Vierge lui garantit le salut. Ça vaut quand même le coup de se mettre. « Ses âmes seront chéries de Dieu comme des fleurs placées par moi pour orner son trône. » Alors là, j'aurais aimé vous projeter le texte du mémoire de Sœur Lucie, on trouve cette phrase, parce qu'un jour, quelqu'un m'a dit « Ce n'est pas possible, la Sainte Vierge ne peut pas promettre le salut. » Alors je dis, moi, je ne sais pas ce que peut promettre la Sainte Vierge, je peux vous dire ce qu'a écrit Sœur Lucie, qui a entendu la Sainte Vierge, qui a entendu les paroles de la Sainte Vierge. Elle a entendu « Prometo a sabasao » en portugais, hein, « Je promets le salut ». Donc je peux vous dire, enfin, sauf à croire que Sœur Lucie, comme prétendent certaines autorités, a menti toute sa vie, si Sœur Lucie dit vraiment les paroles de la Sainte Vierge, et moi je le crois profondément, la Sainte Vierge nous a dit « Si vous... si vous suivez la dévotion au cœur immaculé de Marie, je vous promets le salut. » Et deux mois plus tard, le 13 juillet 1917, hein, la voix, c'était le 13 juin, c'était la deuxième apparition, c'était pas la première, c'était la deuxième apparition, le 13 juin, et la troisième apparition, le 13 juillet 1917, elle répète presque mot pour mot la même phrase. Elle dit « Dieu », donc ici c'est la première personne de la Sainte Trinité, hein, c'est « Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé de Marie. Si l'on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes se sauveront et on aura la paix. » Donc là aussi, quand c'est Dieu qui parle, il garantit non seulement le salut pour nous, mais il garantit le salut des pécheurs et la paix dans le monde. Voilà les propres paroles de la Sainte Vierge. Alors, en résumé, si on résume déjà ce premier point, on peut conclure, voir qu'il y a quatre raisons donc de s'intéresser aux apparitions de Fatima. La première, on voit, c'est une volonté de Dieu lui-même. Dans l'histoire de l'Église, il n'y a pas tellement de cas où Dieu lui-même exprime sa volonté. Si vraiment Dieu, en tant que première personne de la Sainte Trinité, parle, je crois qu'il faut remonter à Sainte Catherine de Sienne, mais depuis, je ne connais pas beaucoup de cas où Dieu lui-même exprime, Jésus peut-être un peu plus souvent, mais là, il y a quand même deux fois de suite une volonté ferme, clairement exprimée de Dieu. C'est quand même un événement exceptionnel. En plus, donc deuxième point, cette dévotion nous assure notre salut, hein, sous réserve, bien sûr, de notre liberté de choisir tout au long de notre vie, on peut revenir en arrière, mais si nous faisons ce que demande la Sainte Vierge nous promet le salut. La troisième point, c'est la conversion des pécheurs. On l'a vu, Dieu dit que par cette dévotion, nous obtiendrons la conversion des pécheurs. Et le quatrième point, c'est la paix, ce qui est assez logique, puisque le jour où les pécheurs seront reconvertis, le jour où le péché, ça ne sera jamais vraiment le cas, mais le jour où le péché diminuera sur terre, eh bien les guerres s'arrêteront, puisque les guerres sont un châtiment dû à nos péchés, permis par Dieu pour nous punir de nos péchés. Voilà donc les raisons, j'ai insisté sur la dernière en introduction, parce qu'effectivement c'est celle qui nous touche le plus près en ce moment, mais il faut voir que les trois autres sont au moins aussi, mais peut-être plus importantes. Quatre raisons donc de s'intéresser aujourd'hui à Fatima, et pas uniquement parce que c'est un centenaire. Alors, nous allons donc voir maintenant qu'est-ce que c'est que cette dévotion au cœur immaculé de Marie. Il y a cinq pratiques, et je tiens à tout de suite vous dire que vous remarquerez que ce sont des pratiques qui sont toutes très anciennes dans l'Église. Selon un peu un adage bien connu, ce qui est nouveau n'est pas catholique, ce qui est allé catholique n'est pas nouveau. Donc, vous allez voir qu'à chaque fois, toutes les pratiques demandées par la Sainte Vierge sont des pratiques qui sont déjà en vigueur d'une certaine façon dans l'Église, et Fatima n'est simplement venue que confirmer, révéler, magnifier, amplifier un peu, réunir dans un beau bouquet ces cinq pratiques. Alors, pour les analyser, je partirai de la plus facile à la plus difficile, parce que il vaut toujours mieux commencer par ce qui est le plus facile. C'est en général comme ça que moi qui suis ancien marin, je sais que quand on prend un remorqueur, par exemple, eh bien, il faut une grosse chaîne quand on a le bateau sur lequel est en panne. Mais pour passer la grosse chaîne, on n'y arrive pas du premier coup. Alors, on commence par passer un tout petit filin, puis après ça, un bout un peu plus gros, puis un peu plus gros, puis un peu plus gros, puis après ça, on passe la grosse chaîne, et ça va assez bien. Mais si on fait l'inverse, en général, c'est moins facile. Donc, on va commencer le premier, le plus facile, la consécration au cœur immaculé de Marie. La consécration, alors, donc c'est le 13 juillet, dans le secret, dans ce qu'elle a dit, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé. Et alors, c'est exprimé au futur, on pourrait dire, bon, est-ce que c'est vrai, etc. Effectivement, elle a formulé la demande de façon expresse en juin 1929, donc une douzaine d'années plus tard, où Notre-Dame lui dit à Sœur Lucie, dans une apparition, une très belle apparition qui a eu lieu à Tuy, « Le moment est venu où Dieu demande au Saint-Père de faire en union avec tous les évêques du monde la consécration de la Russie à mon cœur immaculé de Marie. Il promet de la sauver par ce moyen. » Voilà. Alors, cette consécration au cœur immaculé de Marie, n'est pas du tout nouvelle dans l'Église, puisque déjà, par exemple, Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, dans son traité de la vraie dévotion, incite beaucoup les gens à se consacrer, à l'époque c'est à la Sainte Vierge, mais c'est pareil, le curé d'Ars avait consacré sa paroisse au cœur de Marie, et la première fois où on entend vraiment le ciel demander la consécration, une consécration au cœur immaculé de Marie, c'est à Notre-Dame des Victoires à Paris en 1836, juste après la révolution de 1830, et l'abbé des Genettes, qui avait été nommé par Monseigneur de Quélen, l'évêque de Paris de l'époque, à cette paroisse, au bout de 4 ans où il était nommé, était absolument désolé de voir les efforts totalement inutiles de son ministère, puisqu'il avait une énorme paroisse de, je ne sais plus combien, de dizaines de milliers d'âmes, et il avait une dizaine ou une douzaine de fidèles à l'église le dimanche. Et donc un samedi, c'était le premier samedi du mois de décembre, de, le 2 ou 3 décembre 1836, au cours de sa messe, où il était un peu désespéré de voir qu'il y avait pratiquement personne, il entend une voix qui lui dit « Consacre ta paroisse au cœur immaculé de Marie ». Et à la fin de la messe, il a cru une lubie, et puis il se dit « Non, j'ai bien entendu deux fois ». Et donc il se dit « De toute façon, ça ne peut pas faire de mal ». Et il a consacré effectivement sa paroisse très vite après. Alors ce qui est assez extraordinaire, c'est que le dimanche qui suit, donc il a d'abord demandé à son évêque s'il pouvait le faire, et le dimanche qui suit, il a annoncé en chaire le matin, donc ça devait être le 11 décembre à peu près, et il a dit que le soir, il ferait un office au cœur immaculé de Marie. Et il y avait un participant qui était là, qui a dit « Monsieur le curé, je me rappelle très bien, nous étions 11, le célébrant compris, à cette messe le dimanche. » Et le soir, il y avait 400 à 500 personnes dans l'église. Et il avait demandé un signe à la Sainte Vierge pour lui dire « Écoutez, qu'est-ce que c'est ?» Et le soir même, les hommes commençaient à venir se confesser dans son confessionnal. Et voilà. Et il y a une série de fêtes. Après ça, il y a M. de Joly également, qui était un ancien ministre de Louis XVI, qui refusait les derniers sacrements, qu'il a appelé le lendemain. Et donc, il a vu que la consécration au cœur immaculé de Marie, de sa paroisse, l'a complètement transformée. Et cette paroisse, qui était la moins chrétienne de Paris, quand il l'a pris en 1832, quelques années après, c'était la paroisse la plus fréquentée de Paris. Et après ça, il a fait une archiconfrérie. Mais vous avez des tas d'exemples comme ça de consécration. Il y en a un également qui est assez amusant, qui est un peu lié à la belle famille d'une de mes sœurs, dont la belle-mère était maire d'un petit village qui s'appelle Annel, sur les plages du débarquement. Et devant l'avancée des Alliés, les gens étaient très inquiets, et donc se disaient « Oh là là, qu'est-ce qui va nous arriver ?» Et ils ont essayé de convaincre les maires. Alors ils s'étaient mis à trois communes, le maire de Annel, Meuvaine et Saint-Côme de Fresnay, pour consacrer... Alors, bon, le cœur immaculé de Marie n'était pas encore très connu à l'époque, puisque Fatima n'était pas encore connue en France, ou très peu, et donc de consacrer à Marie. De consacrer les villages à Marie. Et les maires morts de trouille l'ont fait finalement la veille du débarquement. Et il n'y a pas eu un mort, alors que ces trois villages sont sur la plage d'Omaha Beach, donc à l'endroit où il y avait le fort et où il y a eu pratiquement un des énormes déluges de feu de la part des Allemands. La seule personne qui soit décédée, c'est une personne qui était partie la veille, elle n'avait pas confiance, elle a voulu se mettre à l'abri et elle a été tuée dans un bombardement dans la région de Caen, je crois. Donc vous voyez la puissance de la Sainte Vierge. Alors, ces exemples sont aussi importants parce que dans à Fatima, la Sainte Vierge a demandé que la consécration de la Russie. Mais quand on voit l'histoire de la consécration au cœur immaculé de Marie, on voit qu'il y a d'autres cas, et notamment la consécration de la paroisse de Notre-Dame des Victoires à Paris. Donc il faut voir ça comme elle applique cette pratique de la consécration au cœur immaculé de Marie au cas de la Russie pour avoir la paix dans le monde, mais elle souligne par là qu'elle veut, c'est une pratique qui est chère à son cœur et que si nous pouvons être consacrés à son cœur immaculé, c'est sûrement une volonté qu'on le fasse. Et alors, le dernier exemple que je voudrais citer, parce que ça nous intéresse plus directement, le Portugal s'est consacré au cœur immaculé de Marie dans les conditions suivantes. Le 13 octobre 1930, l'évêque de Leiria a reconnu la véracité des apparitions de Fatima. Et immédiatement, le 13 mai suivant, en 1931, tous les évêques du Portugal ont consacré le Portugal au cœur immaculé de Marie. Comme quoi, ils avaient bien compris que ce n'était pas que pour la Russie, ils ont consacré leur pays. Et puis, la situation au Portugal était quand même toujours très tendue. Le Frente Populaire est arrivé en tête des élections en 1936. Donc ils se sont inquiétés et ils ont promis de reconsacrer le Portugal si effectivement la crainte d'avoir un nouveau gouvernement de gauche était éloignée. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc le 13 mai 1938, ils ont renouvelé une deuxième fois la consécration du Portugal au cœur immaculé de Marie. Et voilà ce que dit Sœur Lucie de ces consécrations. Alors là, on n'a pas les lettres de Sœur Lucie elle-même, on les a par les cardinaux qui les ont eues en main. Le patriarche de Lisbonne, le cardinal Cerera, a dit par exemple le 30 mai 1948, j'ai vu la lettre dans laquelle, 7 mois avant la guerre, cette guerre horrible, horrible, qui couvrit de sang la terre et la mer, et qui était annoncée comme imminente, mais où il était promis que le Portugal serait épargné par ses horreurs à cause de la consécration que ses évêques avaient faite au cœur immaculé de Marie. Donc voilà, Sœur Lucie a eu comme témoignage du ciel que le Portugal serait épargné par la guerre parce qu'il avait été consacré au cœur immaculé de Marie. Et cette lettre date de 1939. Le cardinal Ottaviani l'a eu entre les mains. Et voici ce qu'il dit. « J'ai eu entre les mains la lettre du 6 février 1939 où la voyante disait imminente la guerre prédite par Notre-Dame et promettait la protection de Notre-Dame sur le Portugal grâce à la consécration à son cœur immaculé faite par l'épiscopat portugais. » Donc voilà quelques exemples des fruits de la consécration au cœur immaculé de Marie. Et bon, on ne peut bien sûr que vous inciter à le faire à titre personnel. Sur le site, on propose des consécrations personnelles, mais il est aussi recommandé de le faire au niveau familial, au niveau des paroisses. Et là, il y a pas mal de prêtres qui me demandent de temps en temps comment faire, etc. Et je leur dis, ben, c'est tout simple, voilà, mais de consacrer sa paroisse au cœur immaculé, consacrer son école, je pense que vous l'êtes de par le nom que vous portez. Mais il faudrait penser plus loin, il faudrait penser à nos diocèses et à notre pays. Je suis convaincu que si les évêques de France consacraient la France au cœur immaculé de Marie, Notre-Dame écarterait les menaces qui pèsent sur son avenir. Alors, bon, vous me direz, c'est peut-être un peu irréaliste de penser ça, mais pensons déjà à nos paroisses, puis peut-être à nos diocèses, qui sait si, après ça, ça ne ferait pas boule de neige, et qu'un jour ou l'autre, nos évêques consacrerait la France au cœur immaculé de Marie. Bon, les quelques... Moi, j'ai de la chance, je suis né dans un diocèse, ou quasiment, je suis dans un diocèse où l'évêque l'a fait. Donc, évidemment, c'est plus facile pour nous. Et puis, son vicaire général l'a fait récemment dans le diocèse où il a été nommé évêque, à l'Escar, Bayonne, l'Escar et Oloron. Donc, il y a quand même des évêques qui le font. Et je viens d'apprendre que j'ai oublié son nom, l'évêque de Corse vient de le faire également. Donc, vous voyez, c'est pas impossible que des évêques consacrent leur diocèse. Et quand il y en aura un peu un grand nombre, ben, on peut essayer de leur demander de consacrer la France. Deuxième pratique, toujours très. Alors, ça, c'est pas difficile, hein, une consécration. Je dis pas que ça prend. Faut pas la faire à la sauvette. Nous, on conseille de la préparer sur une trentaine de jours. Bon, ça demande un petit peu de temps, mais. Une fois que c'est fait, même si vous la renouvelez tous les ans, comme on aime la faire pour les anniversaires, ce n'est pas quelque chose qui prend, qui est vraiment très, très, très difficile à faire. Et ça a énormément de fruits. La deuxième chose, qui est tout aussi facile, c'est le port du scapulaire. Alors, le port du scapulaire n'est pas dans les paroles de la Sainte Vierge, mais Sœur Lucie a toujours dit que ça faisait partie de la dévotion au cœur immaculé de Marie. Et elle s'appuie pour cela, pour le fait que en août et septembre, enfin surtout le mois de septembre, la Sainte Vierge a dit « Je viendrai, Notre-Dame du Mont-Carmel viendra ». Et le 13 octobre, le troisième tableau qui a été présenté aux petits voyants, qui eux ne voyaient pas le miracle du soleil, ils voyaient les trois tableaux, et le troisième était le tableau de Notre-Dame du Mont-Carmel, et Sœur Lucie a dit « Ben, je l'ai reconnu parce qu'il y avait un scapulaire qui pendait de sa main ». Et elle a dit « C'est parce que la Sainte Vierge veut que nous portions le scapulaire ». Alors, là encore, c'est une pratique très ancienne dans l'Église, puisqu'elle remonte à Saint-Simon Stock, qui vivait à la fin du XIIe siècle et au XIIIe siècle, et qui avait demandé pour son ordre un privilège à la Sainte Vierge. Il avait des visions de la Sainte Vierge. La Sainte Vierge lui est apparue un jour en lui disant « Celui qui mourra dans cet habit sera préservé des flammes éternelles. Voilà. » Donc, celui qui porte qui se fait imposer le scapulaire et qui le porte sur lui le jour de sa mort, eh bien, sera préservé des flammes éternelles. Vous voyez, et c'est très cohérent avec ce que la Sainte Vierge qui promet le salut, si on pratique la dévotion au cœur immaculé de Marie. Elle prend une pratique qui, elle-même, déjà, en elle-même, apporte le salut. Hein. Voilà. Alors, vous avez de très nombreux exemples de gens sauvés par le scapulaire. Un des derniers en date, c'est pendant la guerre de 14, deux soldats belges qui étaient au front, et il y en a un qui portait le scapulaire. Un jour où il va se laver, il oublie son scapulaire à l'endroit où il se lève, il était désolé, il se couche dans la tranchée, et il n'arrive pas à s'endormir, il dit « je ne peux pas passer la nuit sans mon scapulaire ». Donc, il retourne à l'endroit de se laver, et patatras, pas de scapulaire. Donc, il cherche partout, il commence à faire nuit, il ne voit rien. Et là, il y a un de ses camarades qui vient de la tranchée et qui dit « Ah, je te trouve, j'ai ton scapulaire ». Et à ce moment-là, il y a un obus qui tombe sur la tranchée et tous leurs camarades sont morts. Donc, le scapulaire a non seulement sauvé celui qui le portait, mais celui qui a voulu le porter à l'autre, le rendre à l'autre. Vous voyez, c'est extraordinaire. Et vous avez, alors, sur le site, si vous allez sur le site, vous avez l'adresse qu'on doit être par là, www.fatimasan.fr, il y en a l'abbaye de Saint-Joseph de Clerval m'a autorisé à mettre pas mal d'histoires qu'ils ont sur le scapulaire, et vous en trouverez pas mal. Il y en a vraiment qui sont très, très savoureuses, je pourrais dire, vraiment très, très extraordinaires de la protection du scapulaire. Et alors, voici, pour nous convaincre de vraiment l'importance et que ça fait partie de la dévotion au Carmel de Marie, voilà le dialogue qu'eut Sœur Lucie le 15 octobre 1950 avec le père Rafferty qui appartenait à l'armée bleue, qui était une organisation américaine pour développer Fatima. Voilà ce que dit Lucie. « Notre-Dame tenait le scapulaire en ses mains parce qu'elle veut que nous le portions. » Alors le père Rafferty dit « Dans beaucoup de livres sur Fatima, les auteurs ne mentionnent pas le scapulaire lorsqu'ils présentent le message de Fatima. » « À qu'ils ont tort, dit Lucie, le scapulaire est le signe de notre consécration au cœur immaculé de Marie. » Et c'est un peu exact. Quand, dans toutes les professions, enfin moi j'ai été militaire, ça m'est arrivé, le jour où j'ai créé un engagement, le jour où on signe, le jour où un notaire signe, enfin où un avocat signe, etc., après ça on porte un habit. Le jour où un prêtre est ordonné, où il s'engage toute sa vie, il porte un habit. Eh bien, si nous nous consacrons à la Sainte Vierge, la marque de notre consécration à la Sainte Vierge, c'est effectivement de porter son habit, qui est le scapulaire. Alors les religieux le portent, c'est un véritable vêtement. Nous, le scapulaire que l'on propose, c'est juste deux tout petits carrés de tissu de laine brune qu'on porte autour du cou, ce n'est pas du tout la même chose, c'est très facile. Et en plus, depuis Saint Pie X, maintenant on a l'autorisation de le porter en médaille. Mais enfin, il est conseillé de le porter plutôt en tissu. Et alors, Lucie, donc, le père Rafferty, continue dans le dialogue avec Lucie. Il dit « Les dirigeants de l'armée bleue ont-ils raison d'assister sur le port du scapulaire ?»« Oui, dit Lucie, cette pratique est indispensable pour accomplir les requêtes de Notre-Dame de Fatima. » Alors le père Rafferty insiste en disant « Mais diriez-vous que le scapulaire est aussi indispensable que le rosaire ?» Et sort Lucie de répondre « Le scapulaire et le rosaire sont inséparables. » Donc voilà, on est certain que ce seul tableau, même s'il n'y a pas eu de parole de la Vierge parlant du scapulaire pendant les apparitions, le tableau final, c'est vraiment la fin, la Sainte Vierge n'a pas parlé après. C'est vraiment la dernière vision de Fatima, c'est Notre-Dame du Mont Carmel, et Sœur Lucie a toujours interprété ça comme étant la volonté de la Sainte Vierge que nous portions le scapulaire, ce qui est en plus le signe de notre consécration. Troisième point, alors celui-là commence à être un peu plus difficile, la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Alors, donc, c'était le 13 juillet qu'elle avait dit qu'elle demanderait la communion de réparatrice des premiers samedis du mois. C'était au futur, et elle a fait la demande formelle 8 ans plus tard. C'était quand elle était novice ou postulante à Pontevedra, le 10 décembre 1925. Voici ce que dit la Sainte Vierge. « Vois, ma fille, mon cœur entouré des épines que les hommes m'enfoncent à chaque instant par leurs blasphèmes et leurs ingratitudes. Toi, du moins, tâche de me consoler et dis que tous ceux qui, pendant 5 mois, le premier samedi, se confesseront, recevront la Sainte Communion, réciteront un chapelet et me tiendront compagnie pendant 15 minutes en méditant sur les 15 mystères du rosaire et en esprit de réparation, je promets de les assister à l'heure de la mort avec toutes les grâces nécessaires pour le salut de leur âme. » Donc, une fois de plus, la Sainte Vierge, sur un des moyens de la dévotion au cœur immaculé de Marie, dit que si vous le faites, eh bien, vous assurerez le salut de votre âme. Alors, elle ne dit pas tout à fait de la même façon, elle ne dit pas, elle promet, là, elle dit, vous aurez toutes les grâces nécessaires au salut de votre âme. Mais c'est à peu près, la signification est à peu près la même. C'est également une dévotion qui était déjà en vigueur dans l'Église depuis plusieurs dizaines d'années, puisque Léon XIII lui-même avait donné un indulte pour les 15 premiers samedis du mois à la confrérie du Rosaire. J'ai pas noté la date là, j'ai plus. Et Pie X également deux fois de suite avait donné des indulgences. Et il avait même inscrit dans un répertoire, je ne sais plus très bien, j'ai malheureusement pas la référence là, en donnant des indulgences à ceux qui feraient. Je crois que lui, dans ce cas-là, c'était les 10 premiers samedis du mois. Enfin, il y avait une pratique à peu près identique. Et c'est assez étonnant de voir que finalement, à peine 3 ans ou 4 ans après, la Sainte Vierge vient, comme je dirais, cautionner ce qu'ont fait les papes Léon XIII et Saint Pie X en donnant ses indulgences à cette pratique. Et en disant que vraiment, elle fait partie de la dévotion au Carême de Marie et qu'elle tient beaucoup à ce qu'elle soit développée. Voilà. Alors, ces 5 conditions que vous connaissez sûrement très bien, je rappelle qu'il y avait 2 assouplissements qui ont été accordés par l'enfant Jésus. C'était toujours à Pontevedra, 2 mois plus tard. Le petit Jésus était apparu déjà une première fois sur Lucie. Et dans l'apparition du février, il y a un dialogue qui s'engage entre l'enfant Jésus et elle, qui est absolument charmant. Et à un moment, Sœur Lucie lui dit « Mon Jésus, bien des âmes ont des difficultés à se confesser le samedi. Si vous permettez que la confession soit faite dans les 8 jours, soit valide. » C'est-à-dire les 8 jours avant. « Oui, elle peut être faite même au-delà, pourvu que les âmes soient en état de grâce le premier samedi, lorsqu'elles me recevront. Et que dans cette confession antérieure, elles aient l'intention de faire ainsi réparation au Sacré-Cœur de Marie. » Donc on peut la faire avant, mais simplement il faut être toujours en état de grâce le premier samedi du mois. Et Sœur Lucie insiste en disant « Mon Jésus, celles qui oublieront de formuler cette intention. » Et l'enfant Jésus répond « Elles pourront la formuler à la confession suivante, donc on peut le faire aussi après, profitant de la première occasion qu'elles auront pour se confesser. » Donc là, bon, ben, ça, voilà, il faut essayer d'aller le plus vite possible. Si on ne peut pas l'avoir fait avant, le ciel demande de le faire. Alors, souvent on dit 8 jours avant, 8 jours après. L'enfant Jésus, il ne met pas de limite avant. Il en met une après, il faut faire le plus vite possible. Voilà. Mais bon, ben, si jamais vous ne pouvez pas le faire pendant 10 jours, ben, voilà. Mais simplement, il faut au cours de votre confession, vous formuliez bien que c'est en réparation des outrages envers le cœur immaculé de Marie et pour respecter les demandes de la Sainte Vierge pour les premiers samedis du mois. Et alors, il y a un deuxième assouplissement pour la communion du samedi. Hein, parfois, les gens ont du mal à communier le samedi. Moi, j'ai une dame un jour qui m'a écrit en me disant « Vous êtes bien gentil, moi je veux bien le faire, mais il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de messe le samedi. J'ai 60 ans, je n'ai pas de voiture. La première messe est à 60 km. Le prêtre vient une fois tous les dimanches par mois, une fois par mois tous les... » Alors, je dis « Oui, je n'ai pas de solution. » Parce que voilà l'assouplissement qu'a accordé le petit Jésus. « La pratique de cette dévotion sera également acceptée le dimanche qui suit, uniquement le lendemain, hein, le premier samedi, qui suit le premier samedi, quand... mes prêtres, pour de justes motifs, le permettront aux âmes. » C'est-à-dire que là, ça ne dépend pas de nous. On ne peut le faire que par obéissance. C'est tout à fait, je dirais, une pratique tout à fait saine, enfin, de demander l'autorité dans un cas pareil. C'est quand même pas facile. Et donc, ça m'est arrivé une fois, effectivement, je prenais un train à 6h du matin et j'arrivais vers 22h, je ne sais pas où, j'ai dit « voilà, j'ai matériellement pas le temps ». Et le curé de ma paroisse m'a dit « bon, écoutez, le dimanche, vous pourrez le faire ». Voilà, mais c'est assez rare. Hein. En général, il faut vraiment avoir une raison majeure pour pouvoir le faire le dimanche. Si vous ne pouvez pas, ou si aucun prêtre ne vous autorise à le faire le dimanche, eh bien, vous ne pouvez pas faire la commune, vous pouvez pas le faire un autre jour. C'est forcément le samedi. Voilà pour le troisième point. Alors, oui, enfin, je vais faire une parenthèse.
Pendant 5 mois.
Alors, il y a 2 choses. Quand vous regardez les premiers samedis du mois, la Sainte Vierge a demandé pourquoi ? Pour la conversion des pécheurs. Elle dit que toute communion avec les 4 conditions associées faites le premier samedi du mois sauve des pécheurs. Alors, vous pouvez me dire, au bout de, quand j'aurai fait 5, il n'y aura plus de pêcheurs. Je ne crois pas. Donc, on voit très très bien, et Sœur Lucide a toujours dit, que ce que veut la Sainte Vierge, c'est la communion, mais sans durée, la communion des premiers samedis du mois qui nous accorde la conversion des pêcheurs. Ce que veut la Sainte Vierge, c'est la conversion des pêcheurs. Le moyen pour ça, c'est de communier le premier samedi du mois. Donc, chaque premier samedi du mois, que ce soit les 5, etc., vous pouvez obtenir la conversion de pêcheurs, et donc c'est vraiment ce que veut. Et c'est ce que dit très bien Sœur Lucie dans une lettre que je n'ai pas le temps de lire là, mais elle explique très bien qu'elle, elle le fait, pour, par exemple pour les mystères, elle explique qu'elle elle fait d'abord les 5 mystères joyeux, puis les 5 mystères douloureux, puis les 5 mystères glorieux, puis elle recommence. Donc elle explique que finalement, voilà, pour elle, le premier samedi du mois, c'est le jour où on peut sauver des pêcheurs. Et le ciel tient tellement à cette dévotion que pour nous la faire admettre, il va dire, en plus, si vous-même, à titre personnel, vous la faites 5 fois de suite, pour vous, qui êtes aussi un pêcheur, je vous promets le salut. Mais dans le fond de la Sainte Vierge, ce qu'elle a demandé, elle n'a pas demandé, le 13 juillet, elle n'a pas demandé, je demanderai les 5 premiers samedis du mois. Elle a demandé, je demanderai la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Ce qu'elle veut, c'est qu'on convertisse des pêcheurs, qu'on sauve des pêcheurs. Et pour ça, il faut pratiquer la communion des premiers samedis du mois. Les 5 premiers samedis du mois, c'est une grâce supplémentaire qu'elle nous accorde pour montrer combien elle tient à cette dévotion.
Oui, mais pour ça, il faut la confession, la communion...
Pour les 5 conditions. Confession, communion, chapelet, 15 minutes de méditation, et le tout en réparation des outrages envers le cœur immaculé. Il faut bien faire... C'est pas facile, hein. Il y en a moins que pour les 9 premiers samedis du mois, les 9 premiers vendredis du mois. Mais ils sont beaucoup plus exigeants, finalement. Parce que les conditions ne sont pas faciles à faire, on en oublie souvent une. Hein. Notamment si on oublie que c'est pour en réparation envers les outrages vers le cœur immaculé de Marie. Et d'ailleurs, pourquoi 5 ? Eh bien, notre Seigneur a expliqué un jour, sur les filles, il a dit pourquoi vous en demandez 5 et pas 9 et pas, etc. Et il a dit que c'est qu'il y avait 5 sortes d'outrages au cœur immaculé de Marie. Hein. Alors je vais pas me risquer à aller. J'en oublie toujours quand je les cite de mémoire, donc je vais pas le faire, mais voilà, il y a 5 outrages, on pourra aller les chercher tout à l'heure si vous voulez, il n'y a pas de... voilà. Donc, quatrième moyen, le rosaire. Là aussi, le rosaire, très important, c'est la seule demande à avoir été faite à chacune des 6 apparitions à Fatima. Le 13 mai, récitez le rosaire tous les jours pour obtenir la paix dans le monde et la fin de la guerre. 13 juin, je veux que vous disiez le chapelet tous les jours. 13 juillet, je veux que vous continuiez à réciter le chapelet tous les jours en l'honneur de Notre-Dame, du rosaire, pour obtenir la paix du monde et la fin de la guerre. 19 août, je veux que vous continuiez à réciter le chapelet tous les jours. 13 septembre, continuez à réciter le chapelet pour obtenir la fin de la guerre. 13 octobre, que l'on continue toujours à dire le chapelet tous les jours. Il y a une insistance là qui est vraiment... tout à fait remarquable de la Sainte Vierge, c'est qu'elle y tient énormément. Voilà. Alors, et on voit qu'à chaque fois, le rosaire, il est fait pour la paix dans le monde, hein, et pour la fin de la guerre. Il y a une grâce très particulière à la protection, à la récitation du chapelet. Et on le voit très bien. Alors là encore, c'est une pratique dans l'Église très ancienne, puisqu'elle remonte à Saint Dominique, et que depuis Saint Dominique, on a de nombreux cas de victoires remportées par le rosaire. On connaît la bataille de Muret près de Toulouse, la bataille de Lépante, mais plus près de nous, il y en a à la deuxième moitié du XXe siècle, hein, en 1955, je crois, en Autriche, et 1961 au Brésil, il y a eu des révolutions. Oui, oui, c'est ça, oui. Oui, oui. Alors là, les avis sont partagés pour savoir où est-ce qu'il y a eu une apparition de la Sainte Vierge ou est-ce qu'il y en a plusieurs. Je sais qu'il y a 2 ou 3 endroits en France qui réclament l'honneur d'avoir été le lieu où Saint Dominique a reçu la révélation du rosaire par la Sainte Vierge. Mais bon, il y a le puits et de celle-là, effectivement. Et donc, l'Autriche et le Brésil, où vous avez une révolution qui s'est opérée sans... Il n'y a eu aucun mort, il n'y a eu aucun échange d'armes. La récitation publique du rosaire dans les rues de Vienne et dans les rues du Brésil a permis... le remerciement du gouvernement et de retourner à une situation normale. Et je suis persuadé que si en France, on osait, alors évidemment on est tellement peu nombreux qu'aujourd'hui je pense que c'est un peu difficile, mais si on arrivait à avoir, comme se faisaient les mamas brésiliennes, qui chaque fois qu'il y avait un membre du gouvernement qui venait dans une ville, occupait la salle et récitait le rosaire, et voilà, et c'est sûr que ça... Eh bien, le gouvernement de gauche brésilien est tombé, et en Autriche, c'est pareil, les armées du général Molotov se sont arrêtées, et ils ont fait demi-tour, on n'a jamais compris pourquoi. Bon, je ne peux pas m'étendre sur le sujet, mais vous verrez si vous, sur le site, là, les victoires temporelles du rosaire, toutes ces victoires qui sont obtenues par le rosaire. Alors, le rosaire n'a, à Fatima, la Sainte Mère a beaucoup insisté sur le rosaire pour la paix dans le monde, et donc pour la paix de notre pays, c'est très important. Nous, on essaye dans notre paroisse de faire au moins un chapelet ou un rosaire. Enfin, les gens sont un peu lassés du rosaire. Donc, on va tâcher de faire un rosaire vivant, c'est-à-dire qu'on va, on va partager l'assemblée en trois. Il y en aura un les mystères joyeux, les mystères douloureux, les mystères glorieux. Comme ça, il y aura un rosaire complet le temps d'un chapelet. Mais il n'y a pas que le... Oui, mais c'est Pauline Jaricot a tout à fait... C'est tout à fait une pratique tout à fait admise par l'Église et qui a eu des indulgences des papes. Et Sœur Lucie a dit que le rosaire n'était pas, quand même, rappelé que ce n'était pas uniquement pour la paix, hein, mais que c'était pour tout ce qui nous concernait directement au plan spirituel comme temporel. Voici ce qu'elle a dit au père Fuentes, c'était en 1957, décembre 1957. La Très Sainte Vierge a donné une efficacité nouvelle à la récitation du rosaire. Hein. De telle façon qu'il n'y a aucun problème, si difficile soit-il, temporel ou surtout spirituel, mais aussi temporel, se référant à la vie personnelle de chacun d'entre nous, donc c'est vraiment personnel, de nos familles, des familles du monde, ou des communautés religieuses, ou bien de la vie des peuples et des nations, il n'y a aucun problème, dis-je, si difficile soit-il, que nous ne puissions résoudre par la prière du Saint-Rosaire. Avec le Saint-Rosaire, nous nous sauverons, nous nous sanctifierons, nous consolerons notre Seigneur et nous obtiendrons le salut de beaucoup d'âmes. Donc, le rosaire n'est pas uniquement à demander pour la paix dans le monde. C'est ce qu'elle demande à Fatima, mais le rosaire est bien sûr bien d'autres qualités. Voilà, dernier point de la dévotion au cœur immaculé de Marie, c'est les sacrifices pour la conversion des pécheurs. Alors là, effectivement, c'est un point un peu plus difficile, enfin c'est celui qui me semble pour moi un des plus difficiles. C'est pourtant un point qui a été demandé quasiment autant de fois que le rosaire, il a été demandé 7 fois, 3 fois par l'ange et 4 fois par la Sainte Vierge. Et c'est vraiment, je crois, le cœur du message de Fatima, c'est de prier pour la conversion des pécheurs qui nous vaudra la paix dans le monde. C'est ça ce qu'a voulu nous dire. Alors, l'ange, on a parlé 3 fois. Dans la première apparition de printemps 1915, ils disent dans sa prière, « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. » Donc, dès le début, il fait prier pour les pécheurs. Et il explique dans la deuxième, « Offrez constamment au Très-Haut des prières et des sacrifices, de tout ce que vous pourrez, offrez à Dieu un sacrifice en acte de réparation pour les péchés pour lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs. De cette manière, vous attirerez la paix sur votre patrie. » Et on voit très bien qu'il veut nous faire prier pour la conversion des pécheurs et que ça nous apportera la paix. Voilà la raison. Et à l'automne, il recommence. Après la très belle prière, je ne vais pas la citer pour tout court, mais pas complètement, Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, etc., il finit en disant, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Donc, à chaque apparition, l'ange a demandé qu'on prie pour les pécheurs. Et la Sainte Vierge, eh bien, elle avait envoyé son messager pour préparer les petits-enfants, eh bien, elle a complété ce message, en disant, dès la première apparition, le 13 mai, « Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les fausses souffrances qu'il voudra vous envoyer en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs ?» Et là, c'est intéressant parce que la foi, comment ça s'appelle, l'ange avait bien dit, « De tout ce que vous pourrez, offrez un sacrifice de réparation. » Donc, on commence à voir qu'est-ce que demande comme sacrifice, que ce que le ciel demande comme sacrifice. Et là, la Sainte Vierge précise en disant « Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il vous enverra ?» Donc, il y a non seulement la demande de prier pour la consécration, d'offrir des sacrifices pour la conversion des pécheurs, mais également, là, une précision sur le sacrifice à faire. Le 13 juillet, elle en parle deux fois, elle dit « Sacrifiez-vous pour les pécheurs » et dites souvent, spécialement, chaque fois que vous ferez un sacrifice, « Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs, et en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. » C'est d'ailleurs cette prière que Jacinthe avait ajoutée, et pour le Saint-Père. Et à la fin de cette même apparition, elle nous apprend la prière que l'on dit après chaque dizaine. Hein, quand vous récitez le chapelet, dites après chaque mystère, « Ô mon Jésus, pardonnez-nous, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui en ont le plus besoin. » Alors là, petite parenthèse, on m'a demandé quelle était la vraie formule, parce qu'effectivement, il y a plusieurs formules. La formule portugaise, enfin celle que j'ai repris textuellement des mémoires de Sœur Lucie, effectivement, est un peu plus courte que celle qu'on a l'habitude de dire en France. Donc vous avez plusieurs. Mais effectivement, Sœur Lucie a écrit « Ô mon Jésus, pardonnez-nous ». Elle n'a pas dit « Pardonnez-nous nos péchés ». Donc c'est pas très grave. Voilà. Par contre, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, et directement, elle dit surtout celles, et le nous vous prions surtout celles, le nous vous prions n'est pas dans la formule de Sœur Lucie. Voilà, et le 19 août, elle a encore parlé une quatrième fois en disant priez, priez beaucoup, faites des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'elles n'ont personne qui se sacrifie et prie pour elles. Voilà, donc. Sept demandes, trois de l'ange et quatre de la Sainte Vierge, pour nous demander de faire des sacrifices pour la conversion des pécheurs. Alors, le ciel ne s'est pas contenté de dire que cela. Hein, on a déjà vu que dans les phrases de la Sainte Vierge et de l'ange, il y avait des indications sur qu'est-ce que le ciel demandait comme sacrifice. Et, eh bien, Sœur Lucie l'a développé derrière, hein, parce qu'elle a écrit à Mgr Ferrara, qui était un de ses confesseurs, avant qu'il soit nommé évêque, je ne sais plus où, voici ce qu'elle écrit à son confesseur. « Voici la pénitence que le bon Dieu demande aujourd'hui. C'est le sacrifice que chacun doit s'imposer à soi-même pour mener une vie de justice dans l'observance de sa loi. Et il désire qu'on fasse connaître cette voie aux âmes, car beaucoup donnent au mot pénitence le sens de grandes austérités, et comme elles ne se sentent ni la force ni générosité pour cela, elles se découragent, et se laisse aller à une vie de tiédeur et de péché. » Et à la fin de la lettre, elle insiste, parce qu'elle dit, elle explique comment elle a appris cela. C'était juste donc un jeudi du mois de février 1943, probablement, ou un peu avant, quand elle faisait son heure sainte. Elle dit donc à Mgr Ferrara, « Du jeudi au vendredi, me trouvant dans la chapelle avec la permission de mes supérieurs, à minuit, notre Seigneur me dit, » Alors là, c'est notre Seigneur qui parle. Le sacrifice qu'exige de chacun l'accomplissement de son propre devoir d'État et l'observance de ma loi, voilà la pénitence que je demande et que j'exige maintenant. Donc c'est très clair, c'est très précis. Le ciel ne demande pas de pénitence, ne demande pas qu'on se flagelle, qu'on jeûne trois fois par jour, par semaine, etc. Non, il demande l'accomplissement de son propre devoir d'État et l'observance de sa loi. Alors, là, si vous retournez en vous-même, vous verrez que c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile, qui est, à mon avis, beaucoup plus difficile que de faire un jeûne ou de se priver d'une friandise. Supposez, par exemple, que vous disiez « je ne m'agace devant aucune des contrariétés de la journée », ce qui est ce que demande le ciel, c'est ça, c'est accomplir son devoir d'État, c'est-à-dire que bon, ben, y a des contrariétés, il y a des choses comme ça, eh bien, l'accepter et l'offrir pour la conversion des pécheurs, voilà ce que demande le ciel. Je crois qu'il y a quelques mères de famille ici. Il s'agit de conduire le matin les enfants à l'école, qu'il y en a un qui a renversé son chocolat, on est en retard, il y a un feu rouge, il y a un type qui vous brûle la priorité, etc. On l'engueule, on s'énerve. Eh bien, non. C'est une contrariété. Le devoir d'État, on le fait avec le sourire. Et surtout, on offre pour le sacrifice de la conversion des pécheurs. Voilà. Malheureusement, dans la journée, il est très facile de trouver beaucoup de gens de sacrifices qu'on pourrait offrir, mais à mon sens, ils sont beaucoup plus difficiles à faire que des privations. Voilà. Et alors, elle a insisté, elle a dit également à un autre de ses confesseurs, le père Gonsalves, quelques mois plus tard, pour bien insister, pour bien être sûr qu'on sache, elle l'a écrit une deuxième fois, elle l'a écrit d'autres fois, mais enfin, il, c'est-à-dire Jésus, désire que l'on fasse comprendre aux âmes que la véritable pénitence qu'il veut et exige maintenant consiste avant tout dans le sacrifice que chacun doit s'imposer pour accomplir ses propres devoirs religieux et matériels. Il ne demande pas de pénitence. D'ailleurs, vous remarquez, il n'y a qu'une seule fois où Lucie, je crois que c'était après l'apparition du 13 octobre, où elle a parlé pénitence, pénitence, mais pénitence au sens portugais, ça veut dire se convertir. Sinon, elle a toujours dit que la Sainte Vierge n'a jamais parlé de pénitence, ni l'ange, dans toutes les apparitions, qu'elle a, que ce soit Fatima ou après. Le ciel n'a jamais demandé de pénitence, le ciel a demandé des sacrifices. Voilà. On n'a pas le temps de faire la distinction entre la pénitence et le sacrifice. La pénitence est de l'ordre de la justice, le sacrifice est de l'ordre de la charité. Là, ce que demande le ciel, avant tout, c'est que dans notre vie quotidienne, nous offrions toutes nos contrariétés, que ce soit pour accomplir notre devoir d'État, que ce soit pour accomplir, respecter la loi divine. Voilà donc ces cinq pratiques de la dévotion au cœur immaculé de Marie. Donc, nous valent trois promesses quand même assez extraordinaires. Hein, je rappelle que c'est une protection à la fois corporelle, spirituelle ou la garantie de salut éternel pour nous. Hein. Ceci l'est par le port du scapulaire, la communion des cinq premiers samedis du mois et la consécration au cœur immaculé de Marie. Ça, ce sont vraiment les moyens pour nous protéger. Vous avez la promesse de la paix dans le monde par la récitation du rosaire et la conversion des pécheurs par l'offrande des sacrifices de la vie quotidienne et également la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Bon, la raison majeure, bien évidemment, je le rappelle, c'est que c'est une volonté de Dieu, hein, de Jésus lui-même. Donc, ne serait-ce que celle-là, il n'y aurait pas les autres promesses, suffirait à ce que nous embrassions cette dévotion de tout notre cœur. Et puis, si vous regardez très honnêtement, au regard de ce que vous gagnerez, votre salut, la conversion d'être cher, et peut-être la paix dans le monde, vous allez y consacrer 15 minutes par jour et 2 heures par mois, c'est moins d'1% de votre temps, c'est quand même pas énorme. Donc j'espère que vous arriverez à le faire. Voilà, j'en ai terminé avec la dévotion au cœur immaculé de Marie. Si vous voulez éventuellement poser quelques questions, j'avais dit que je parlerai une heure, ça fait juste une heure. Il est temps que je m'arrête. Maintenant, si vous avez des questions, je veux bien y répondre. C'est toujours la première qui est difficile. Ou alors c'est que je les ai assommés. Voilà.
C'est difficile de parler de Fatima, du message de Fatima aux prêtres de nos paroisses. Je ne sais pas comment aborder si par exemple.
Comment les aborder ? Oui, alors, il y a deux choses. Je pense qu'il faut leur en parler. Que vous arrivez à les convaincre, c'est autre chose. Je pense que le ciel ne nous demande pas de convaincre. Hein. J'aime beaucoup cette phrase de Sainte Bernadette à l'abbé Peyramale quand il lui avait parlé de l'Immaculée Conception. Elle a dit « La Sainte Vierge m'a demandé de vous lire, ne m'a pas demandé de vous convaincre. » Donc, je pense que, d'abord, quand on essaie de convaincre quelqu'un, on a tout de suite une attitude un peu empreinte qui fait que ça passe très mal. Je pense qu'il faut simplement leur dire les choses. Vous leur dites, voilà, vous y croyez, vous avez des choses. C'est vrai.
Pas réussi à faire un chapelet, pas d'adoration, surtout pas, parce que c'est vraiment. Et le couple qui a essayé de faire ça, c'est fait virer l'équipe d'animation. Donc en fait.
Ah oui, non, ça c'est sûr. Ça, vous avez... Alors là,
c'est
sûr,
mais. Ouais.
Alors maintenant.
Alors, c'est ce que j'ai fait, mais on m'a dit qu'il ne fallait pas changer de paroisse, que je trahissais ma paroisse parce que je me suis mariée là et baptisé mes 5 enfants là.
Pour votre sanctification personnelle et celle de votre famille, après.
Dans ma famille, résultat, il n'y a plus personne qui veut.
Ma mère, notre maman, on était sur Notre-Dame de Fatima à Lambassa, et le prêtre, elle voulait mettre, ma mère voulait mettre des petites images avec, avec la prière, etc. Et il a, elle s'est battue toute sa vie, elle n'a jamais réussi à mettre des petites images de prière.
Ah ouais.
Et ce prêtre-là vient d'arriver dans notre paroisse.
Ah oui. Mais bah, moi je
sais pas comment je veux dire, mais peut-être que c'est un clin d'œil.
Si on lui dit qu'on est dans le schisme, complètement.
Oui,
il faut quand même essayer. Moi,
c'est à Lille. Ils disent qu'ils croient pas aux démons, ils croient pas rien. Toujours ce qu'ils vont pas dire, on va lui mettre des machins.
Normalement,
des électrodes, des
pour l'occasion des 100 ans de prière, peut-être une occasion. Ou avec l'affiche, je peux lui demander une lettre de l'affiche.
Oui, oui. Moi, dans ces cas-là, je serais tenté à dire, il faut lui donner l'histoire de l'abbé des Genettes.
Sur votre livre ou pas ?
Non, je vous le déconseille.
Ça marche pas.
Non, il va s'agacer, c'est dommage.
Il est trop gros.
Oui. Non, mais alors,
moi, j'ai donné le livre de Don Roby à un prêtre, et excusez-moi, pardon. Et il m'a dit, si tout ça c'est vrai, donc je deviens fou. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, bah tant pis, j'ai donné.
Il y a quelque chose en cours, mais c'est vrai qu'on a du mal à savoir. Le Vatican est tellement contre les apparitions de Fatima que je doute que ça aboutisse au moins dans un proche avenir. Voilà, oui. Je pense pas qu'ils ont. Il y a eu encore un congrès à Fatima pour le centenaire, pour préparer le centenaire, un congrès par une énorme organisation mariale. J'ai eu un compte rendu. C'est effondrant, quoi. Ils nient pratiquement tout. La position du Vatican, c'est que Lucie a tout inventé. Seul est vrai les apparitions de 1917, mais pas le secret. C'est-à-dire que, et même ils ne reconnaissent pas le miracle du soleil. C'est pour ça qu'ils n'en parlent jamais, parce que pour eux, c'est un événement douteux. Donc, il y a vraiment un refus complet de Fatima, c'était, enfin, au moins dans les milieux officiels. Je ne parle pas de tel ou tel évêque, cardinal ou du pape lui-même, je ne sais pas, je ne le connais pas. Mais on voit très bien que les officiels du Vatican, enfin la position officielle, est contre Fatima. Hein, vous allez sur le site du sanctuaire pour le centenaire, il n'est jamais parlé ni des apparitions, ni de Sœur Lucie, ni du message. C'est uniquement le Christ. Tout doit être référencé au Christ. Donc, si vous ne parlez de la Sainte Vierge, c'est plus, les gens ne sont plus d'accord. Et c'est très triste.
Les jeunes
ont... Oh, il y a beaucoup de choses. Alors, il faudrait leur demander. Moi, je ne fais que constater des faits. Je pense que l'œcuménisme est là derrière et gêne beaucoup. La dévotion à la Sainte Vierge gêne beaucoup. Ils sont très, très anti-apparition. En général, il y en a beaucoup qui n'aiment pas les apparitions. Et voilà, et c'est vrai que dans le message, il y a beaucoup de choses qui vont les gêner. Donc, ils disent que c'est des inventions de Lucie pour pas avoir. Par exemple, elle se dit, seule elle peut obtenir la guerre. C'est-à-dire que c'est la médiatrice. Et d'ailleurs, on voit très bien dans le message qu'une des conséquences de Fatima, c'est que vraiment. La Sainte Vierge est médiatrice de toute grâce. Or ça, c'est une notion qui a été refusée formellement par le concile du Vatican II. Hein. Même Paul VI, étant pape à l'époque, a dit que c'était une condamnation condamnable. Donc ils ne veulent pas de la dévotion de Marie, médiatrice de toute grâce. Et au congrès dont je citais le septembre dernier, ils ont encore nié le fait qu'elle puisse être une médiatrice de toute grâce. On leur a posé la question, elle dit non, il n'y a qu'un seul médiateur, Marie ne peut pas être médiatrice de toute grâce. Et alors Oui, mais alors, un des représentants du Vatican, dont j'ai oublié le nom, etc., un grand ponte, soi-disant, a écrit un livre dans lequel il dit, il faut bien se convaincre que la Sainte Vierge est née avec le péché originel comme nous. Vous voyez, quand vous avez des gens. Alors, après ça, les gens vont dire la dévotion au cœur immaculé de Marie. Non, ils n'y croient pas, puisque eux-mêmes pensent qu'elle est née avec le péché originel. Donc, c'est vraiment dramatique, quoi, parce qu'on est dans une période de désorientation diabolique, comme disait Sœur Lucie, qui est effrayante.
Je sens
changer
de sujet. Est-ce que vous avez vu et qu'est-ce que vous pensez du film qui a fait pas mal de bruit dans le milieu et pas mal de tirer le monde?
Alors, vous avez deux films qui sont sortis récemment. Un qui s'appelle M et le troisième secret, et l'autre qui s'appelle le troisième jugement. Alors, bon, pour des gens qui ne connaîtraient rien à la religion et rien aux apparitions, je veux bien croire que ça fasse un peu de bien, parce que ça leur donne un peu une teinture de spirituel. Bon, effectivement, c'est des choses qu'ils ne connaissent pas, donc ça va les interpeller. Et c'est vrai que beaucoup de nos contemporains. Quand on disait 4% de catholiques, c'est vrai qu'on peut dire que 96% des Français, ils vont ouvrir des yeux, ils vont pas le croire, quoi. Ça va être complètement nouveau pour eux. Donc ça peut peut-être faire un peu de bien. Quand vous regardez après ça, vraiment le fond, c'est deux films catastrophiques. Le premier, d'abord, il ne parle qu'un tiers du temps de Fatima, et c'est très ésotérique, très syncrétiste. J'ai entendu donc Pierre Barnérias, il a dit deux fois qu'il était enthousiasmé parce qu'il avait recensé plus de 20 000 apparitions de la Sainte Vierge. Alors j'ai fait le calcul, ça vous en fait une tous les deux mois depuis l'Assomption. Attendez, ça tient pas vous, c'est complètement. Alors il n'y a aucun. Alors sa démarche est très sympathique et c'est vrai qu'il entraîne des gens qui sont. Voilà. C'est un jeune converti, il est tout feu, tout flamme. Et c'est sûr qu'il entraîne des gens qui seraient un peu agnostiques et à se poser des questions. Ça, c'est vrai. Maintenant, pour nous, je ne crois pas que ça va faire grand-chose. Et le deuxième, c'est pareil. Alors moi, ce qui m'a profondément choqué dans le deuxième, c'est qu'il commence par dire « Ce film est inspiré d'une histoire vraie ». Donc déjà, dès le début, ils vous disent « Ce n'est pas l'histoire de Fatima que je vais vous raconter, c'est mon interprétation ». Voilà. Et effectivement, c'est une interprétation. Alors, il commence par inverser, je crois, plus ou moins les apparitions. Enfin, ils mélangent tout. Ils font une espèce de... Tout est dans le merveilleux, et rien sur le message. Rien sur la dévotion au carême de Marie. Rien sur le... Donc, l'essentiel de... Et puis, alors, les petits voyants sont, moi, je trouve, peu sympathiques. Enfin, alors, on me dit qu'il y a des effets spéciaux formidables. J'avoue que quand on va voir un film comme ça, c'est pas ce qu'on va voir, c'est pas les effets spéciaux. Par contre, le message de Fatima n'y est pas du tout rendu. Si vous voulez avoir un bon film, c'est celui qui est ressorti, là, de Daniel Costel. On le trouve assez facilement maintenant en CD-ROM, il est ressorti. Alors là, vous avez un film qui relate bien l'histoire de Fatima. Mais les deux récents, là, c'est vraiment... non. Je trouve que c'est un peu du temps perdu. Moi, il faut qu'on ait... On a bien été obligé de les voir, quoi, mais c'est pas... Vous n'en tirerez pas grand-chose. Hein. C'est très difficile. Enfin, je suis peut-être un peu critique, parce que comme tout connaisseur, mais c'est vrai que je trouve que c'est pas des très bons films. Oui, il y a un rituel, il faut se le faire imposer au moins une fois, il y a un rituel pour se le faire imposer, voilà. Non, tout prêtre peut le faire, et le rituel, d'ailleurs je crois que je l'ai mis sur le site, il me semble, donc même si vous avez un prêtre qui ne l'a pas, c'est facile à trouver, et une fois que, et après ça, une fois que vous changez, vous n'avez pas... Ah oui, non, c'est... Assassinato, celui qui le portera le jour de sa mort.
Oui, et quelle est la différence entre le scapulaire normal et le scapulaire vert?
Alors, c'est pas la même, c'est une autre nom. Vous avez plusieurs scapulaires, mais effectivement, le scapulaire vert, alors il a été demandé en 1836, par Justine de Scuberu à la rue du Bac, hein, après la médaille miraculeuse. C'était, oui, une dizaine d'années après, je crois. Et c'était spécialement plutôt pour les convertis à l'heure de la mort. C'est-à-dire que vous mettez le scapulaire vert à l'insu d'une personne sur une personne mourante, vous avez des conversions extraordinaires.
Ah, pour que ce soit à l'insu de la personne?
Non, c'est pas obligé d'être à l'insu. Mais vous pouvez le faire même...
Si vous le mettez comme ça,
par exemple, les gens disent, vous le mettez sous son oreiller, c'est sans rendre pas compte, ou sous son matelas. Et c'est... Alors... c'est votre geste de foi qui va faire que la personne va avoir une grâce pour se convertir. Mais le fait que bon, la Sainte Vierge accorde une grande importance à ce geste de foi, j'ai confiance à la Sainte Vierge, je vais mettre un scapulaire dans sa chambre, dans sa maison, dans ça, etc. Et voilà pourquoi il a été fait. C'est pas tout à fait le même. C'est pas un scapulaire qu'on porte. Alors, on peut le porter sur soi, bien sûr. Moi j'en porte un, ne serait-ce que pour en donner éventuellement à des gens qui en auraient besoin à l'article de la mort, pour leur mettre, dire voilà, qu'ils aient une protection si jamais on trouvait quelque chose. Mais normalement, celui qu'on porte, c'est le scapulaire brun.
Et le marron.
Et le brun, oui, c'est ça. C'est celui-là,
c'est celui-là. Vous disiez le vert.
Non, le vert, c'est pour les mourants. C'est plutôt pour les mourants.
Et le marron, c'est pour.
Le marron, c'est celui que la Sainte Vierge a demandé à Saint Simon Stock.
C'est pas
que
ils ne sont pas mourir aussi.
Ah, bah.
C'est ça le problème. Alors, si on n'a pas le verre, on va mourir.
Pour la conversion de la Russie, pourquoi Colin, elle parle le temps de la Russie. C'était un sujet d'actualité en 2016. Aujourd'hui,
Alors. Alors, la Russie, à l'époque, quand même, c'était quand même une source d'erreurs colossales. Et qui continue aujourd'hui, d'ailleurs, à se répandre, hein, même si la Russie est revenue. Comment dire, dans un chemin plus droit. Pourquoi ? Parce que la Sainte Vierge, Dieu voulait. Sœur Lucie l'explique très bien dans une lettre qu'elle a, dans des discussions qu'elle a eues avec ses supérieurs. Dieu voulait que la conversion d'un pays vraiment athée soit un triomphe du cœur de sa mère. Donc elle avait désigné un pays particulièrement, celui à l'époque c'était vraiment la Russie qui était le pays, le grand Satan si on peut dire, qui était vraiment le pays athée qui répandait le communisme absolument partout, et elle avait demandé la conversion, elle a demandé la consécration de la Russie pour ça. Et sur le site, dit voilà, c'est parce que Dieu lui a dit, on verra comme ça que c'est vraiment le triomphe de son cœur immaculé. On consacre son cœur, de même que à l'échelle de la paroisse, l'abbé des Genettes a consacré sa paroisse et tout le monde a pu constater qu'elle a été convertie. Là, on aurait consacré la Russie. La conversion brutale de la Russie aurait montré la puissance du cœur immaculé de Marie. Et c'est ce que voulait Dieu. Et il est probable que cette promesse qui est faite vaut toujours. Donc, alors, ça dépend. Il y a eu des consécrations qui ont été faites. Il y a eu des consécrations du monde. Il y a eu sept consécrations du monde qui ont été faites, effectivement. Mais la consécration de la Russie en tant que pays, nommément... elle a été une fois Pie XII l'a nommé une fois. Il a consacré la Russie, mais il l'a fait tout seul dans son coin, sans les évêques, sans journée de réparation. Et voilà. Donc, il n'y avait pas toutes les conditions. La Sainte Vierge a demandé six conditions pour cette consécration. Aucune des sept consécrations qui ont été faites ne remplit les six conditions. Alors, la consécration qui a été faite, en fait, moi je pense, après l'avoir, enfin, on est plusieurs, enfin, de nombreux sont ceux qui pensent que c'est la consécration demandée par notre Seigneur à Alexandrina da Costa, qui est une voyante qui vivait à Balazar au Portugal, un peu au nord de Fatima, et que Sœur Lucie connaissait d'ailleurs, parce qu'elle en parle dans une lettre au pape Pie XII, quand Pie XII a consacré en 1942 le monde au cœur immaculé de Marie, Sœur Lucie explique très bien que cette consécration est demandée par notre Seigneur. Pourquoi l'a-t-il fait ? Parce que voyant que, année après année, la demande de sa mère n'était pas faite, il a dit « Je veux bien avoir la consécration du monde et je promets dans ces cas-là l'arrêt de la guerre. » Mais il a dit « Ça sera l'arrêt des persécutions, mais ça ne sera pas la conversion de la Russie. » Et vous avez le même phénomène qui s'est à peu près produit avec Jean-Paul II. Il a consacré le monde. Vous avez eu la chute du mur de Berlin, mais vous n'avez pas eu l'arrêt des erreurs de la Russie. Alors, la Russie est revenue, les persécutions en Russie se sont arrêtées, mais la situation est restée la même. Hein, les catholiques sont toujours martyrisés et les erreurs du communisme continuent à se répandre dans le monde. Le mondialisme est de plus en plus présent. Bon, il a changé de forme, il a changé de tête, mais il est toujours là. Donc, il y a deux demandes du ciel. Une première de la Sainte Vierge pour un pays particulier et au cœur immaculé de Marie, et une deuxième faite par notre Seigneur parce que voyant que la première n'était pas faite, en disant je veux bien une consécration du monde générale, mais comme ce n'est pas ce que m'a demandé ma mère, ce sera une grâce limitée. Mais il y a une grâce associée à ces consécrations du monde. On a vu, moi, la vie qu'on a vu les deux fois où il y a eu une vraie consécration du monde. Et là, notre Seigneur n'a pas demandé ni les évêques, ni la journée de réparation. Voilà, il demande simplement que ce soit au cœur immaculé de Marie. Ben, c'est l'objet de ce livre, si vous voulez avoir. C'est assez difficile d'y répondre en 10 minutes, parce que c'est une affaire compliquée, qui divise les catholiques, ce qui est bien dommage. Alors qu'en fait, on pourrait prendre très sereinement la question. Il y a trois théories qui s'affrontent. C'est le secret complet, c'est une partie du secret, et c'est un secret qui n'est pas le secret. Je connais de très brillants ecclésiastiques qui chacun croient les trois positions. J'ai aucune raison de penser que ce sont de mauvais prêtres. Donc chacun pense ce qu'il veut. Alors, voyant ça, ce que j'avais fait, c'est que je me suis dit, c'est pas possible de rester dans cette incertitude. C'est pour ça que je me suis mis il y a 9 ans, et bon, j'ai essayé de rassembler les arguments. Moi, j'ai ma position. Maintenant, si vous voulez, c'est une position à la fois logique et une position spirituelle. Hein. Les deux derniers chapitres expliquent pourquoi j'ai choisi dans ça. Maintenant, je ne prétends pas avoir la vérité. Maintenant, jamais personne ne m'a montré que je m'étais trompé. Si, j'ai été violemment pris à partie, mais sans aucun argument. Donc voilà. Pour moi, ça me paraît vraiment un secret très, très, très curieux. Quand vous regardez tous les... Si vous prenez tous les arguments... Quoi, la première... ceux qui pensent, par exemple, que c'est le secret complet, il y a tellement de questions qui se posent avec l'histoire de Fatima. C'est tellement incroyable qu'on a du mal à le penser. Après ça, le deuxième, que ce soit une partie du secret, il y a aussi énormément de questions qui se posent. C'est pas l'écriture de Sœur Lucie, il fait 60 lignes alors que le pape avait reconnu qu'il en faisait que 20. Jean-Paul II a dit qu'il faisait 22 lignes. Donc c'est quand même pas n'importe quoi. Il nous présente un texte de 66 lignes. Donc il y a des choses qui vont pas. On n'a pas le droit de voir le papier. Il donne que les informations au compte-gouttes. Enfin, vous verrez. Alors. Moi, si j'ai fait ce livre, ce n'est pas du tout pour le troisième secret. Je l'ai fait parce que la question est souvent posée et que finalement, ça intéresse les gens. Mais ce qui est derrière, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit l'intérêt de la... C'est comme ça que j'ai découvert, moi, tout l'intérêt de la dévotion au cœur immaculé de Marie. Parce que si vous prenez le secret dans son ensemble, les deux premières parties, vous avez vu tout ce qu'on peut trouver dedans aujourd'hui. Il y a énormément de choses. Il n'y a pas besoin du troisième secret, finalement. Commençons par les deux premières parties. Que le troisième secret soit faux, la troisième partie soit faux, finalement, peu importe. Déjà, commençons par mettre en pratique les deux premières parties. Il y a énormément de choses dedans qui ne le sont pas faites aujourd'hui. Aujourd'hui, le Vatican vous dit, Fatima, c'est du passé. C'est écrit dans le dossier qu'ils ont envoyé en 2000 avec le secret, soi-disant qu'ils ont publié. Et ils ont dit, ne reste qu'une seule chose, c'est la prière et la pénitence. Mais sans rien dire de plus. Et tous les spécialistes de Fatima ont dit, mais c'est pas ça, Fatima. Fatima, c'est... Le rosaire, c'est les sacrifices pour la conversion des pécheurs, et c'est l'accomplissement du devoir d'État. Et tout ça, c'est pour notre salut et pour la paix dans le monde. Et bien, pour le Vatican, ça n'existe pas. Ça, ce sont des inventions de Sœur Lucie. Donc, déjà, si on connaissait les deux premières parties du secret, comme j'ai essayé de vous le faire présenter ce soir, et les mettre en pratique, il n'y a pas besoin de plus. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, il faut... Voilà, vous pouvez toujours voir, mais c'est... Bon, maintenant, je vous dis, ce n'est que ma position, hein, je prends toutes les critiques possibles, et même les membres de ma famille, je n'ai pas réussi à les convaincre. Donc, vous voyez, pas tous, il y en a certains, mais...